C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de justice et principalement de procès. Alors on va commencer par un procès très célèbre, et s'il est une chose très difficile à imaginer dans les procès, c'est l'ambiance, parce qu'on ne peut absolument pas se remettre dans le contexte de certaines choses. Le premier procès qui nous concerne, c'est celui de l'affaire Calas. Il suit en fait un des textes les plus ignobles qui a été fait en France par un monarque. Ce monarque, c'était Louis XIV, et le texte, la révocation de l'édit de Nantes. Là où son aïeul avait réussi à réconcilier les deux religions et à faire vivre les gens ensemble, je parle d'Henri IV, Louis XIV, sous l'influence de plusieurs femmes, car il était beaucoup plus influençable le roi Soleil qu'on ne le pensait, a fait ce texte qui interdisait aux protestants d'exercer leur culte, mais qui également leur interdisait toute émigration d'une façon relativement sévère. Ça n'a pas empêché 200 000 d'entre eux de s'enfuir dans les pays d'Europe. C'est dans ce contexte qu'a été jugée l'affaire Calas, c'est-à-dire l'affaire d'après Édit de Nantes. L'affaire se déroule de 1761 à 1765, on est plus de 50 ans après la mort de Louis XIV. Calas est un commerçant protestant de Toulouse. Beaucoup se sont établis dans le sud. Son fils a été trouvé mort, étranglé ou pendu, on ne sait pas, selon le médecin présent sur place, tellement les indications sont vaseuses et peu précises, et il est accusé de l'avoir assassiné pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. L'affaire est très politique, elle n'est pas spécialement révélatrice du fonctionnement des tribunaux royaux, mais ceci étant, elle est entachée de nombreux abus de procédure. Et ça ne va pas échapper à un de nos plus grands philosophes qui va demander et obtenir la révision du procès. Le procès va être révisé en 1765, alors que Calas, qui a toujours clamé son innocence, a été torturé, étranglé et brûlé 3 ans avant, en 1762. En 1765, les magistrats de la cour royale rétablissent la veuve de Jean Calas dans ses droits et réhabilitent, grâce à Voltaire, la mémoire de son défunt époux. Il est souvent difficile de séparer l'œuvre de l'homme. C'est le cas avec tous les écrivains collaborationnistes, sur lesquels je reviendrai dans une autre chronique. Mais c'est également le cas avec des auteurs qui ont toujours senti un petit peu le soufre. Je pense notamment au marquis de Sade. Il a été condamné la première fois en 1778. Et il faut savoir qu'il a quand même passé la bagatelle d'un tiers de sa vie en prison. Et son premier procès a eu lieu en 1778 à Aix-en-Provence. La famille de Sade vient du Midi. Une chose qu'on a tendance à oublier, on voit le Sade parisien, la Bastille, tout ça. Mais en fait, la famille de Sade est du Midi. Une partie, en tout cas. Ce qui est condamné en 1778, ce sont ses pratiques sexuelles. Il a fait des choses avec une jeune ouvrière qui s'appelait Jeanne Testard. Il l'a flagellée, il l'a sodomisée. Il a fait des tentatives d'empoisonnement avec des prostituées de Marseille. Il a fait des orgies avec des adolescents. Et il est condamné pour sodomie. Il est condamné pour des tas de choses qui sont tout à fait abominables. Mais il y a également une chose sur laquelle on a peu insisté, c'est que Sade a été également énormément condamné pour son impiété. Il a été un des premiers athées d'ailleurs, ce qui est d'autant plus remarquable que certains membres de sa famille étaient des hauts membres du clergé. Loin de moi de défendre l'idée de Sade, mais il y a une philosophie dans Sade. Quand on sait l'apercevoir, c'est quelque chose d'assez étonnant. Sade, si on le pose par exemple à Rousseau qui pense que l'homme est bon, Sade pense que l'homme est une saloperie, quelque chose de mauvais, et en fait il y a toute une philosophie de ça. Alors bon, Sade écrit moins bien que Rousseau, et l'écriture est pas extraordinaire, mais par contre ce qu'il raconte n'est pas sans intérêt. On peut dire ce qu'on voudra par rapport à ça. Sa vie a senti le soufre et après sa mort ça a continué puisqu'en 1956, un grand éditeur français qui s'appelle Jean-Jacques Pauvert va publier ses œuvres. Il va comparaître devant le tribunal de Paris pour avoir publié ses œuvres complètes et finalement il va être acquitté. Alors ça veut dire que les ouvrages de Sade sont tolérés mais qui sont réservés aux adultes. Sade, qui a passé le tiers de sa vie en prison, a passé les deux autres tiers à faire mille choses, mais le dernier tiers, quand il était à Charenton, il l'a passé à écrire. Il faut voir qu'il a écrit en prison également, et qu'il a même, il raconte même comment il a sorti plusieurs manuscrits de la Bastille, c'est quelque chose d'assez étonnant, autant que répugnant. Ceci étant, après tous ces procès, en 1990, Sade va connaître quand même une relative consécration, puisque l'intégrale de ses œuvres va être éditée par la collection prestigieuse de la Pléiade. Au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, à quelques années d'écart, vont se passer deux choses importantes. La première, c'est en 1851, le fils de Victor Hugo, Charles, comparaît en cour d'assises, tenez-vous bien, oui, en cour d'assises, pour outrage aux lois, car il a fait paraître dans son journal, qui s'appelle L'Événement, un article qui proteste contre une exécution. Victor Hugo, il a une cinquantaine d'années à l'époque, pas tout à fait, va s'attaquer à la chose en s'attaquant directement au principe de la peine de mort. Et le 19e siècle est un siècle où on va s'attaquer à des choses importantes, qui commencent d'ailleurs, si on réfléchit un petit peu à la chose, à être un petit peu en péril à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire en 2026. 6 ans plus tard, en 1857, paraît un recueil de Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. La presse est choquée, s'offusque. Le procureur général ordonne la saisie des exemplaires. Un mois plus tard, il y aura procès et condamnation. Le motif indiqué est outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Là, on s'attaque cette fois à la liberté d'expression. Alors, le contexte social de l'époque renferme un grand nombre de ce genre de choses, c'est relativement banal, c'est le Second Empire, donc la justice engage régulièrement des poursuites contre les hommes de lettres, contre les musiciens, contre les auteurs de théâtre, dont on juge certains écrits immoraux. Alors c'est curieux parce qu'il y a une espèce de libéralisme des mœurs d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce type de choses. L'opinion publique, ceci étant, soutenue par la multiplication des titres de presse, conçoit les écrivains comme suspects. Il va y avoir Flaubert, il va y avoir Baudelaire, et quelque part, les choses vont durer. Parce que plus de 50 ans après l'abolition de la censure par la Révolution française, le procès des Fleurs du Mal va raviver finalement cette histoire de la liberté d'expression. Il faudra attendre presque un siècle pour que la Cour de cassation française annule la condamnation des Fleurs du Mal. On est quand même en 1949.
Gasti belles allemands à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Dona Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois la nuit gagne le Mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille homograbine dans Tecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu, pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le licou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou, le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
Parfois, et parfois même sans qu'on le veuille, les transitions se font toutes seules. Nous voici 20 ans après le procès du fils de Victor Hugo, et on a toujours un rapport avec Victor Hugo, parce que le procès qui va se tenir est celui d'une femme extraordinaire, il s'agit de Louise Michel. Louise Michel, à la base, est institutrice. Alors son origine est particulière, parce que visiblement c'est l'enfant naturel d'un noble qui l'a fait à une servante. Voilà, tout simplement. Sa mère est servante, et son père, visiblement, serait un ancien parlementaire, c'est ce qu'on appelait à l'époque la noblesse de robe. C'est-à-dire qu'ils étaient tous magistrats ou avocats ou choses comme ça. Et ça a dû marquer un petit peu quelque part dans les gènes de Louise Michel, parce que Louise Michel porte beaucoup de combats, le combat des femmes, mais aussi le combat des opprimés, le combat des pauvres. Elle va soutenir les mineurs, elle va soutenir la commune, bien sûr, c'est là qu'elle aura, je ne veux pas dire son heure de gloire, parce que son heure de gloire, elle l'a eu presque de suite. Et curieusement, alors elle sera condamnée plusieurs fois à des choses terribles, elle sera condamnée à la prison, elle sera condamnée à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Donc elle sera tour à tour amnistiée, la peine sera commuée, elle a eu des procès toute sa vie, et toujours pour défendre des causes complètement extraordinaires. Elle n'a jamais renié ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais, contrairement à certaines de ses camarades, minimisé ses peines pour sauver la tête, bien au contraire. Et donc, elle a eu un rapport avec Victor Hugo, qui lui a dédié un poème, un très beau poème, qui aura une certaine importance quelques années plus tard. Et elle a eu un lien particulier. Il l'a soutenue, il lui a envoyé des mandats, il lui a écrit pendant qu'elle était au bagne, avec Clémenceau. Alors, j'avoue que personnellement, je n'ai pas un amour immodéré de Clémenceau, pour des tas de raisons. D'autant plus que on lui doit en grande partie la Deuxième Guerre mondiale à cause des conditions qu'il avait édictées lors de l'armistice de la Première. Mais je dois reconnaître que par rapport à Louise Michel, il a été relativement exemplaire et il a soutenu ce qui n'était pas forcément dans son caractère parce qu'il avait des côtés, comme beaucoup de gens à cette époque, relativement macho. Il a soutenu cette femme extraordinaire qui nous a quittés à la fin du 19e siècle. Après avoir vécu tout ce qu'il était possible de vivre, les journaux l'ont traité de tout, et ses activités sont absolument hallucinantes. Donc elle a été, bien entendu, chef de parti et institutrice, mais elle a été aussi femme de lettres, journaliste, poétesse, une grande pédagogue, et bien sûr, une immense révolutionnaire. Quelle femme! les deux procès dont je vais vous parler n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est qu'ils se passent au même moment. Le premier a lieu en 1896, il s'agit du procès d'Oscar Wilde. Oscar Wilde est ce qu'on appelle un dandy, un écrivain d'origine britannique, mais certainement pas anglaise. Oscar Wilde se fait plus ou moins une gloire d'être homosexuel. Il sort avec un jeune homme qui est le fils d'un noble, très conservateur. En fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est Oscar Wilde qui va demander un procès contre le père de ce garçon pour légitimer sa relation avec lui. Les choses vont complètement se retourner et Oscar Wilde va être condamné et ça va vraiment le meurtrir à un point très haut. La deuxième chose se passe un an après. Il s'agit de l'attitude de Zola et de son intervention dans l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Dreyfus, je ne veux pas vous la rappeler, il s'agit d'un militaire juif qui a été condamné à la suite d'une chose intentée de toutes pièces par ses ennemis, où il y avait trahison d'État et tout un tas de choses qui n'étaient pas spécialement agréable à entendre. Zola a commencé à s'intéresser à l'affaire en 1897. L'année d'après, il avait été approché par Bernard Lazare, qui était un journaliste politique, polémiste, plutôt anarchiste, et qui lui était juif 2 ans avant. Mais Zola pense que le dossier contre Dreyfus est trop solide, et que de toute façon, l'issue du procès ne fait aucun doute. En revanche, Zola est quand même interpellé par la vague de haine antisémite qui se déclenche à l'occasion. Et là, je fais une petite parenthèse pour dire qu'actuellement, j'ai un petit peu l'impression qu'on vit la même chose en 2026, à bien des propos et dans les deux sens, en interprétant et en amalgamant tout un tas de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Toujours est-il, pour revenir à notre affaire, que Zola est mis en présence d'Auguste Scherer-Kestner, qui est le vice-président du Sénat. C'est un Alsacien, et lui, il est Dreyfusard. Il est convaincu que le capitaine est innocent. Zola reste sceptique. Mais bon, de fil en aiguille, on va réussir à emmener Zola pour faire un grand article, parce qu'on connaît très bien son don d'écrivain et son côté persuasif. C'est ce qui va occasionner ce fameux article que tout le monde connaît, qui lui a été plus ou moins... Il a été plus ou moins poussé, une fois de plus, par Clémenceau, que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'il voulait avoir un titre un petit peu pompeux et tout, et Clémenceau lui a dit « J'accuse, c'est le meilleur titre qui soit, absolument ». Donc Zola va proposer son titre au Figaro, mais le Figaro va refuser, parce que déjà à l'époque, on est tout avant l'avancée du XXe siècle, la tendance est très conservatrice, et du coup, le journal qui va publier cet article, ça va être l'Aurore. Le 13 janvier 1898, le journal décuple son tirage. En quelques heures, on va en vendre 300 000 exemplaires. L'article est non seulement un succès, mais également ce qu'on appelle un brûlot, et il va avoir toutes les conséquences qu'on sait. Ceci étant, le général Billot, ministre de la Guerre, porte plainte contre Zola, le gérant de l'Aurore. Et eux-mêmes sont jugés devant les assises de la Seine du 7 au 23 janvier 1998. Le procès s'ouvre dans une ambiance d'une violence hallucinante. L'avocat de Zola fait citer 200 témoins, ce qui n'est pas rien. La réalité de l'affaire Dreyfus est diffusée dans la presse. Plusieurs journaux publient les notes sténographiques des débats au jour le jour, ce qui instruit les narrateurs. Les nationalistes, en revanche, organisent des émeutes, forçant le préfet de police à intervenir. Zola sera condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende, la peine maximale. Une honte de plus dans le paysage français. Le paysage juridique, j'entends.
No quiero cantar más de amor, no quiero hablar más de abrazos. No tengo miedo del desierto, de las luces lejanas, de las noches más negras y del mar sin color. Quédate en el silencio, nace el sol y del silencio nace el llanto. Mil
sacro de la madrugada, de tu cuerpo callado, salen barcos y nieblas, salen mundos enteros. Quédate.
Le dernier procès dont je vais vous entretenir est un de ceux qui m'indignent le plus, je vous l'avoue. Jean Jaurès est assassiné en 1914 au Café du Croissant à Paris, dans la rue du même nom. Son assassin, qui est très courageux, tire 2 balles par la fenêtre et s'enfuit. Mais il sera rattrapé et maîtrisé. Et on saura qui c'est. Il s'appelle Raoul Villain. Pendant ce temps, la guerre de 14 passe. Jean Jaurès va y perdre son fils unique, il ne le saura pas puisqu'il est décédé, bien sûr, mais sa femme, elle, va vivre cela. Et en 1919, va enfin avoir lieu le procès du meurtrier. Jugé par la cour d'assises de la Seine, du 24 au 29 mars 1919, le contexte a complètement changé. On est dans une poussée complètement nationaliste, avec un jury de bourgeois. Le meurtrier est acquitté par 11 voix sur 12. Raoul Villain, lui, ira en Espagne, où il rejoindra l'armée franquiste, et il sera tué par des nationalistes espagnols. Alors que la veuve de Jean Jaurès est condamnée aux dépens, c'est-à-dire à payer les frais du procès de l'abruti qui a tué son mari.
C'est étonnant, non ?